Ça va, vous allez bien? Ça se passe bien pour vous? J'espère. Et puis, si jamais il y a des choses qui sont un peu lourdes, ben que la suite de ce culte puisse vous encourager. Je ne sais pas si c'est une chance hein, de m'avoir toujours. J'espère que c'est une bénédiction. Je voudrais, avant d'entrer dans ce message, qu'on puisse prier pour remettre ce temps. Ce temps de la parole. Seigneur, déjà, je te loue. Je te loue pour ce temps de joie. Je te loue pour ce temps de fête qui est aujourd'hui en particulier autour de nos amis qui ont choisi de s'engager avec toi au travers des eaux du baptême. Merci pour tous ces témoignages que nous avons entendus. Merci, Seigneur, pour la manière dont tu veux toucher au travers de cela. Et Seigneur, tu veux aussi toucher chacun, chacune au travers de ta parole. Alors, Seigneur, vraiment, que la place te soit donnée entièrement. C'est toi qui es à l'honneur, Seigneur. C'est ta parole qui est à l'honneur. C'est toi, Saint-Esprit, qui est à l'honneur. C'est toi, Père, qui est à l'honneur. Merci, notre Dieu, de ta révélation. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde à choix multiples, une société à choix multiples. Hein, vous allez au supermarché, vous regardez tous les produits qu'il y a, vous avez 10 marques pour le même produit, hein, on ne sait que choisir. On peut faire plusieurs métiers dans une vie, alors pour certains, c'est vraiment une opportunité, ça peut être super. Pour d'autres, ce n'est pas vraiment un choix, c'est plutôt une nécessité. On a différentes philosophies, différentes croyances, différentes religions, différentes manières de penser qui se présentent à nous, tellement de choix multiples qu'on peut en perdre la tête. Où est l'essentiel? Comment garder l'essentiel? Vous savez, il y a une étude qui a été faite qui montrait que plus on avait de choix, excusez-moi de l'expression, plus on pétait un câble. Et qu'en fait, le cerveau de l'être humain est fait pour assumer à peu près 3-4 choix, je crois, si je me souviens bien. Hein, donc, et encore moins pour les cerveaux masculins, je crois. Non, ça, je ne sais pas. Mais voilà, nous ne sommes pas faits pour assumer autant de choix. Et comment, oui, ne pas perdre de vue l'essentiel. Et ne pas perdre de vue l'essentiel, c'est un moment le propos qu'a l'apôtre Paul envers des chrétiens qui habitent la ville de Colosse en Grèce et qu'on appelle les Colossiens. Et voilà un moment ce qu'il leur dit qui est en lien avec le baptême. C'est au chapitre 2 à partir du verset 11. Et merci de l'afficher, voilà. Que je ne me trompe pas de version. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis. D'une circoncision. Non, il faut que je commence avant. Vous avez tout pleinement en lui. Donc à partir du verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc lui, c'est Jésus. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse, ou votre chair, dans d'autres traductions. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous aussi, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Voilà le propos de l'apôtre Paul avec des expressions qui peuvent être compliquées, mais je vous rassure, on va voir ça ensemble. Donc Paul est en train de s'adresser aux Colossiens en leur disant, mais pourquoi est-ce que vous allez chercher à droite, à gauche? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que les Colossiens allaient chercher, malgré qu'ils avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie, que Jésus-Christ était le sens de leur vie, ils allaient chercher leur essentiel, le sens de leur vie, leur essence, dans d'autres choses, dans un culte aux anges, dans ce qu'on appelle l'ascétisme. C'est le fait de se priver de plaisir jusqu'à, par exemple, ne pas manger du tout, mais voilà, d'une manière où, religieuse. Ils honoraient ou ils essayaient de suivre des traditions humaines au travers de rites dans des fêtes. Voilà. Mais des choses qui, finalement, qui les éloignaient de cette foi qu'ils avaient pourtant en Jésus-Christ. Parce que, donc Paul dit, oui, mais vous avez tout pleinement en Christ. Et effectivement, on a tout pleinement en Christ. On a tout pleinement en Jésus-Christ. On a la vie en abondance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu as la liberté. En Jésus-Christ, tu as l'amour, le vrai. Jésus, c'est qui ? Jésus, c'est celui qui est venu il y a 2000 ans nous montrer le vrai visage de Dieu. Le vrai visage de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas les évangiles, vous lisez les évangiles. Vous verrez qui est le témoignage de ceux qui ont passé ces temps où Jésus était là, en chair et en os. Et vous verrez le visage de Dieu. Vous verrez le visage de Dieu. Il est venu nous montrer le visage de Dieu à nous qui, à la base, sommes éloignés de Dieu. Et il suffit de regarder nos vies. Il suffit de regarder nos comportements, nos attitudes qui nous mènent vers des choix qui ne sont pas toujours justes. Il faut le reconnaître, vers des choix même qui peuvent être malheureux, vers des choix qui peuvent nous emmener, peuvent faire du mal, peuvent nous détruire, et qui nous emmènent finalement vers la mort. Des choix qui nous éloignent de l'essentiel, de l'essentiel. Et l'essentiel, leur essentiel, c'est ce qu'on choisit, nos amis qui se baptisent ce matin. Ils se déclarent, ils s'engagent pour cet essentiel. Toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, c'est... Tu peux laisser le verset, s'il te plaît, tous les versets de 10 à 13. Et donc, tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous détruit, tout ce qui fait du mal comme ça, c'est ce que Paul appelle nos offenses. C'est ce que Paul appelle aussi l'incirconcision de notre chair ou de notre corps. C'est-à-dire, c'est tout ce qui en nous est rebelle à la vie, est rebelle à Dieu, qui est la vie. Tout ce qui en nous nous emmène finalement vers la mort, qui n'est pas quelque chose de constructif, mais qui est quelque chose qui nous détruit. Tout cela nous coupe de Dieu. Et ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons nous corriger. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons nous corriger. La seule solution, mes amis, la seule solution, c'est Jésus-Christ. Et la seule solution, c'est ce que Paul appelle, lui, de cette manière, dans ce passage, la circoncision de Christ. Vous savez ce que c'est, la circoncision ? Hein ? Ça existe chez les musulmans et ça existe chez les juifs. La circoncision, à la base, c'est le signe que Dieu a donné aux juifs, aux hébreux, comme quoi ils appartiennent au peuple de Dieu, au peuple élu de Dieu, à la base. Comme quoi ils font partie de ce peuple. Et ça veut dire quoi, la circoncision de Christ ? Ça veut dire quoi que la solution à tous ces choix devant lesquels on est, devant laquelle la vie nous met, ça veut dire quoi, la circoncision de Christ ? Ça veut dire que je décide de me laisser dépouiller par Jésus-Christ. Je décide que ma chair, ce qui est rebelle en moi, se laisse blesser quelque part. Se laisse blesser. Arrête de croire que tu es parfait, que tu peux compter que sur toi. Qu'est-ce qui parle là-dedans ? C'est notre orgueil. C'est notre orgueil. C'est notre nature pécheresse qui nous fait croire qu'on peut s'en sortir seul. Et c'est ça, la circoncision de Christ. C'est oser laisser une place à Dieu, la place à Dieu. Le laisser ainsi nous dépouiller de tous nos travers, de tous ces comportements, de toutes ces attitudes, de tous ces choix malheureux dont je parlais tout à l'heure. lui laisser notre volonté de faire notre propre justice qui peut aller jusqu'au désir de vengeance. Laisser notre orgueil. Tout ce que la Bible appelle le péché, qui est une puissance spirituelle, qui nous éloigne de Dieu, qui signifie erreur. Tout ce que le péché produit en nous. Et vous savez, ça peut aller très loin, cette erreur. Ça peut aller très loin, cette erreur. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a le péché en horreur et qu'il nous a envoyé Jésus. Et quand on fait ce choix de Jésus, il se produit, mes amis, il se produit l'inimaginable. Dieu vient habiter en toi par son esprit. Tu te rends compte, le Seigneur de l'univers, le Dieu qui a tout créé, à nous qui sommes si petits, des petites fourmis, si ce n'est pas plus petit, Dieu vient habiter dans les petites fourmis que nous sommes. Waouh ! Et ça, c'est cette réalité dont nos amis qui se baptisent sont en train de témoigner aujourd'hui. Cette réalité spirituelle, invisible, dont le baptême, qui signifie immersion, est en fait le témoignage dans le visible, dans ce que nous voyons, dans le monde matériel. Ils viennent dire ainsi, c'est ce qu'ils déclarent. Et c'est ce que Dieu déclare avec eux aujourd'hui. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir parce que cette nature, cette vieille nature, cette nature incirconcise, elle a été ensevelie, morte avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui va se passer dans les eaux du lac tout à l'heure. Vous allez laisser ça tout à l'heure, là-dedans. Et je ressusciterai, selon cette nouvelle nature, je ressusciterai selon cette nouvelle nature qui est désormais la mienne. Parce que voilà, je suis fait de la même consistance, je suis de la même nature que Jésus-Christ maintenant, lui qui vit en moi par son esprit. Finalement, cette immersion, ça va être quoi ? C'est à la fois l'aboutissement d'une première étape, cette étape où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et là, vous venez dire un grand oui. Et c'est en même temps le début d'une nouvelle étape où vous allez grandir avec Jésus-Christ. Vous allez grandir avec votre Dieu. Et c'est, je terminerai ce message là-dessus, c'est remarquable de voir le lien que Paul fait entre la circoncision, donc qui, je le rappelle, est le signe de la première alliance entre les Juifs et Dieu, et le baptême qui est le signe de la nouvelle alliance, l'immersion qui est le signe de la nouvelle alliance. Je vais souligner deux points là-dessus, sur cette alliance, sur ce qu'est le baptême en tant qu'alliance. Vous savez, dans une alliance biblique, il y a un engagement mutuel entre deux parties. On pourrait le rapprocher d'un contrat, mais ça va beaucoup plus loin qu'un contrat. Dans une alliance biblique, il y a un enjeu de vie et de mort. Il y a un pacte de vie et de mort. La tradition biblique, comment est-ce qu'on faisait pour traiter une alliance où on dit couper une alliance ? On coupait, on sacrifiait des animaux, on les coupait en deux et on mettait chaque moitié d'un côté et de l'autre et chaque partie qui traitait l'alliance devait passer entre. Et ça voulait dire, pour ceux qui passaient entre, qu'il me soit fait et qu'il te soit fait comme ces animaux si jamais tu romps cette alliance. Donc vous voyez, ça va plus loin qu'un contrat. Vous imaginez un contrat de travail où finalement le patron ce qu'il signe, ah bah si tu respectes pas mes conditions de travail, tu vas mourir. Et puis aux ouvriers, aux employés, ah bah si vous faites pas le boulot que vous avez à faire, vous allez mourir. Il y aurait beaucoup, ça serait chaud, hein. Il y aurait, je pense qu'il y aurait pas mal de, ouh, ce serait une hécatombe. Donc ça va plus loin qu'un contrat. Et je disais, c'est un enjeu de vie et de mort, un pacte de vie et de mort. Et dans toute alliance biblique, il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui est versé. Par exemple, quand David et Jonathan ont fait alliance pour se protéger mutuellement. Ça, c'est une histoire qui est dans le Premier Testament. Ils se sont coupés la main, la paume de la main, et ils ont mélangé leur sang. Voilà, il y a du sang qui coule. Et dans le baptême, dans l'immersion, il y a du sang qui coule. Et quel est ce sang ? C'est le sang de Jésus. Et c'est que le sang de Jésus. C'est que le sang de Jésus qui coule. Nous n'avons pas versé notre sang, nous. Nous n'avons pas eu à verser notre sang. Lui seul l'a fait. Lui seul l'a fait pour qu'on puisse se présenter devant Dieu. Waouh ! Et vivre cette vie éternelle avec lui qu'il nous promet. La deuxième et dernière chose que je voulais souligner concernant l'alliance biblique, c'est que l'alliance biblique, fondamentalement, c'est une union. C'est une union. La première alliance de Dieu avec les hommes, c'est laquelle ? C'est l'alliance que Dieu a faite avec Adam et Ève. Quand il leur a dit, « Bon, vous pouvez manger du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin. Je vous conseille en particulier l'arbre de vie, au mieux. Par contre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangez pas, sinon vous mourrez. » Je ne sais pas s'il a dit comme ça, j'étais pas là. Mais voilà les termes de cette alliance. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est, je vous ai dit, il faut du sang qui coule dans toute alliance. Quel est le sang qui coule ? Alors, ce n'est pas dit dans le texte. Alors, vous le recevez si vous voulez, vous laissez inspirer par le Seigneur. Moi, c'est ce que j'ai compris. Quel est le sang qui coule ? Parce qu'il faut qu'il y ait du sang qui coule. Le sang qui coule, c'est le sang qui coule suite à la brisure de l'hymen en Ève lors de leur premier rapport intime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au travers de leur union, au travers de leur mariage, spirituellement, psychiquement et physiquement, que Adam et Ève étaient appelés à accomplir cette alliance. C'est au travers du fait de cultiver leur relation entre eux, en étant fidèles à Dieu, qu'ils devaient accomplir cette parole. Ça dit l'importance du mariage, ça dit l'importance de la relation de couple, tellement c'est sacré pour Dieu. Et on sait comment ça s'est passé. On sait comment ça s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, cette première alliance souligne le caractère d'union. C'est au travers d'une union que Dieu vient faire alliance avec les premiers hommes. Et le baptême, c'est une union. Mes amis, vous allez vous unir à Dieu. Vous allez lui dire oui. Amen. Et peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont chrétiennes, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne sont pas allées jusqu'à ce oui. Tu n'es pas allé jusqu'à ce oui. Tu es toujours fiancé, mais tu n'es pas marié avec Dieu. L'union, l'engagement dans cette union n'est pas allé jusqu'au bout. Et le Seigneur veut te parler ce matin. Vraiment, que tu puisses te laisser gagner parce qu'il veut te dire. Lui, il veut s'engager avec toi. Est-ce que tu veux t'engager avec lui ? Il t'appelle. Il y a des personnes parmi nous qui peut-être n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Cette vie éternelle, cette vie en abondance, cette vie qui fait que tu sais quel est l'essentiel parce que tu sais quelle est ton essence. Tu sais de quoi tu es fait finalement. Et le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Il te dit, je suis venu pour te sauver. J'ai donné ma vie pour toi. Mon sang a coulé pour toi. Reçois ma vie. On va terminer ce temps de message par une prière qu'on va faire tous ensemble. Temps de prière qu'on va vivre tous ensemble. Je voudrais que chacun ferme les yeux, que tout le monde ferme les yeux. Même si je t'invite, tout le monde est libre, hein, mais je t'invite, si tu n'es pas croyant, à fermer les yeux quand même et à vivre ce temps-là avec nous. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il y a plusieurs personne à qui le Seigneur parle aujourd'hui. Et si tu fais partie des personnes comme ça qui effectivement ont donné leur vie à Jésus, mais ne sont pas allés au bout, n'ont pas dit oui, ne sont pas allés au bout de cette première étape, je t'invite à lever ta main là où tu es. Si tu te dis, ça y est, oui, moi je me sens appelé par Dieu au baptême. Je veux répondre à cet appel qu'il me lance aujourd'hui. Je veux lui obéir. Je veux m'engager toute ma vie avec lui. Ça résonne dans ton cœur. Que tu puisses lever ta main là où tu es. Si tu n'oses pas lever ta main, que tu es dans ce cas-là, que tu n'oses pas lever ta main, laisse le Seigneur continuer de cultiver ta terre. Laisse le Seigneur continuer de cultiver ta terre. Un jour, ça va venir. En tout cas, Dieu t'attend. Dieu t'attend sur ce terrain-là. Et s'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, et par tout ce qu'on a vécu ce matin, au travers des chants, au travers des prières, au travers des témoignages, au travers de ce message peut-être, si tu veux donner ta vie aujourd'hui à Jésus, et on peut garder tous les yeux fermés, je t'invite à lever ta main. Alors si dans ce cas, tu n'oses pas lever ta main, parce que voilà, c'est quelque chose qui est intime pour toi, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais Dieu te cherche, Dieu te cherche. Dieu te cherche, il veut se laisser trouver par toi. Il veut que tu puisses lui ouvrir la porte de ton cœur. Vraiment, je prie que tu ne restes pas campé sur ta position. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu sais tous où on en est avec toi. Et Seigneur, on te bénit pour qui tu es. On te bénit pour ce Dieu qui vient nous rencontrer, qui est venu nous rencontrer en Jésus-Christ. C'est tellement fou, les mots humains sont tellement faibles et pauvres pour exprimer cette réalité qui nous dépasse. Je te remercie Seigneur pour de conduire la suite de cette célébration. Nous en remettons à toi. Amen.